Leonarda, on t'en a beaucoup parlé.
Mais non.
Et alors.
Mais non, mais ça veut dire qu'il est en train, il va avoir 40 ans, il est en train enfin de couper le cordon. Il va assumer d'aller avec la femme de son choix, même si elle plaît pas.
Mais on revient toujours à la mère quand même.
On revient toujours à la mère. C'est une intelligence, c'est formidable tout ça. Il est de quel décan?
C'est le dernier.
Il est du même décan que toi.
Non, c'est le dernier.
C'est le dernier du con comme vous.
Les grands 7, c'est fini pour aujourd'hui, mais on les retrouve demain de 15h30 à 18h. Et puis là, tout de suite, c'est Ophélie Meunier avec Confidentiel qui va évoquer la vie de Bob Marley. Très belle soirée sur Bel RTL. Bel RTL, il est 18h. RTL Info en votre compagnie, Olivier Schoenbrod, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Pour qui voter le 9 juin prochain, les partis ont tout fait pour vous convaincre aujourd'hui à l'occasion des discours du 1er mai. La pyrale du buis, particulièrement gourmande, cet insecte dévaste en un rien de temps nos haies qui mettent des années à grandir. La vie de château en famille, une trentaine de châteaux étaient ouverts au public aujourd'hui. Visite en province de Namur à Astières, nous étions au château de Fréhir. Et puis, deuxième choc, deuxième demi-finale ce soir de la Ligue des Champions, c'est du foot bien sûr. Emiliano Bonfigli nous présente Dortmund PSG. Alors la météo, Stéphane Van Bellingen, après une belle journée, la nuit va être un peu plus agitée.
Et oui, ce soir et cette nuit, une ligne d'averse localement orageuse atteindra notre pays par la frontière française. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés. Demain, attention, des pluies ou des averses orageuses de plus en plus répandues et localement très intenses. Maxima de 14 à 23 degrés. Et vendredi, un temps un petit peu plus calme mais plus frais avec des maxima de 11 à 16 degrés.
1er mai, aujourd'hui, journée traditionnellement réservée aux discours et meetings politiques et syndicaux. Chaque année, c'est l'occasion d'y aller de sa petite pique ou de sa formule un peu acide à l'égard des concurrents. Plus encore cette année, avec les élections dans moins de 6 semaines, Mehdi Ouriagli, les discours entendus étaient plutôt musclés.
Et beaucoup de partis n'avaient évidemment pas leur langue dans leur poche, à commencer par le PS et Paul Magnette qui en a profité pour s'en prendre au MR.
C'est vrai que chaque année, quand on voit ce 1er mai du MR, honnêtement, c'est vrai que ça a quelque chose d'indécent. Quand on pense que c'est le MR qui avait réalisé le saut d'index, que les travailleurs ont perdu des milliers d'euros.
Et de son côté, le MR s'en est évidemment pris à la gauche par l'intermédiaire de son président Georges-Louis Boucher, mais plutôt au PTB.
Aujourd'hui, le PTB, c'est le vrai patron de la gauche. On l'a vu avec le décret paysage. Donc moi, je m'adresse directement à Raoul Hedebeau et avec un conseil, c'est une cure de détaxe. Il faut baisser l'impôt, il ne faut pas en créer plus.
Ce qui n'a pas empêché Raoul Hedebeau de lui répondre.
Georges-Louis Boucher, aujourd'hui, qui nous balance que le 1er mai, c'est la fête des libéraux, mais pas du tout, quoi. Les libéraux, c'est le parti qui a fait un saut d'index, qui a attaqué les salaires des travailleurs. Les libéraux, c'est ceux qui ont privatisé les services publics.
Enfin, les deux derniers partis ayant pris part aux festivités, les engagés écolos l'ont fait avec un peu plus de retenue, même si Maxime Prévost n'a pas pu s'en empêcher lors du congrès des engagés 2 jours plus tôt.
On laisse cette bagarre de coq entre PS et MR. C'est de manière assez stérile. Nous, on voulait au contraire positivement réunir l'ensemble des candidats, une série de nos supporters.
Alors qu'Ecolo et Rajamawan se sont plutôt concentrés sur le message.
Aujourd'hui, c'est un jour important, c'est la fête du travail. Et ce qui est important, c'est d'être à disposition des personnes et d'échanger avec elles et eux.
Voilà qui promet pour le 9 juin prochain.
Mehdi Ouriagli, merci à vous. 1er mai, le muguet, mais on s'attarde aussi à nos haies de buis. Et les pauvres, elles sont attaquées par la pyrale du même nom. La pyrale du buis, c'est un papillon asiatique dont les chenilles mangent les feuilles des arbustes et des haies en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et ce sera le cas encore cette année, dès maintenant, jusqu'à la fin de l'automne. Damien Pussemier est gérant d'une jardinerie. Il est au micro d'Aurélie Henton.
Dès qu'il fait un peu bon chaque année, ça peut la cata. Les papillons qu'ont pondu fin de l'année passée, ben, les œufs sont en train de se développer en chenille. Et puis la chenille, ben, elle est là où elle doit être, dans les buis. Elle mange. Et si on ne le voit pas tout de suite, ben, c'est la bérésina. Et si on le voit à temps, il y a moyen de traiter, mais faut le voir.
Le traitement, c'est la pulvérisation. Renseignez-vous chez votre horticulteur, fleuriste ou pépiniériste. Pas de grève demain à l'aéroport de Charleroi. Syndicats et direction se sont réunis ce matin et ils se sont entendus. Si, comme 17 500 autres personnes, vous aviez un vol programmé demain au départ de Gosselies, pas de problème, il sera assuré. Incendie cet après-midi dans les bois entre le monde sauvage des Wailles et le hameau de Assoumont en province de Liège. 1000 mètres carrés de forêt sont partis en fumée. Le feu a pu être maîtrisé, mais son extinction complète prendra du temps. En Allemagne, près de Fribourg, un char d'un défilé du 1er mai s'est renversé sur la foule, faisant une trentaine de blessés. 10 sont dans un état grave. De gros moyens ont été déployés pour venir en aide aux victimes, des hélicoptères notamment. Une bien belle journée du 1er mai, l'occasion unique aussi pour visiter plus d'une trentaine de châteaux qui ont ouvert leurs portes avec en parallèle de nombreuses activités. Une opération organisée dans le cadre des journées européennes du patrimoine. En Wallonie, les visiteurs ont apprécié la preuve avec ces quelques réactions recueillies par Kathleen Delvaux en province de Namur au château de Freyr à Astières.
On est trop heureux parce que le petit dès qu'il a relevé, il a fait waouh! Donc on est trop heureux. Il fait bon, donc c'est trop bien. Et puis c'est vraiment chouette parce qu'il y a des petits sentiers comme un petit labyrinthe là. Et puis bah, le cadre est magnifique, simplement.
Les jardins sont quand même assez vastes et c'est magnifique avec le point de vue sur les rochers, c'est grandiose.
On a fait tout l'intérieur et franchement ça vaut la peine d'être vu quoi, c'est vraiment beau.
RTL Sport Football, ne manquait pas la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions ce soir avec un deuxième club allemand au stade de cette prestigieuse compétition. Le Bayern hier a partagé l'enjeu face au Real et ce soir Dortmund reçoit le PSG. Emiliano Bonfigli, vous êtes sur place à Dortmund. Les Allemands ne sont pas les favoris de cette double confrontation.
Le Borussia Dortmund est clairement l'outsider de ces demi-finales et le PSG veut en profiter pour disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions après celle perdue en 2020. Les Parisiens ont été sacrés champions de France ce week-end pour la 12e fois de leur histoire. Il y a donc de la confiance et un peu d'euphorie aussi avant d'affronter Dortmund, mais ce ne sera pas simple. Paris n'a jamais gagné ici à Dortmund en 3 rencontres précédentes. Les Parisiens compteront en premier lieu sur Kylian Mbappé, auteur de 43 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Les Allemands, eux, sont capables de tout. Ils l'ont prouvé en éliminant l'Atlético Madrid en quart de finale. Il n'y a pas de grande star dans cette équipe. C'est plutôt un collectif solide, conscient de la chance qui s'offre à eux. Leur entraîneur Edin Terzic n'hésite pas à dire que le Borussia est peut-être l'équipe qui a le plus faim dans ces demi-finales. En tout cas, il n'a rien à perdre ce soir devant ses 80 000 supporters.
Dortmund PSG dès 20h10 sur RTL Club et RTL Play avec vous, Emiliano Bonfigli. Au commentaire, vous serez accompagné de Johan Wallem. 18h07, fin du journal. Tout de suite, c'est Confidentiel avec Ophélie Meunier. Confidentiel consacré ce soir à Bob Marley. Très bonne soirée tout le monde.
Confidentiel sur RTL.
Bonjour à tous, bienvenue sur RTL pour Confidentiel, l'émission qui révèle les zones d'ombre qui se cachent derrière les grands destins. Le destin de cet homme-là est unique. Bob Marley est décédé il y a un peu plus de 40 ans et après avoir vendu 77 millions d'albums, sa voix continue de résonner. L'histoire de Bob Marley, c'est bien plus que celle d'un Jamaïcain qui a permis à la musique reggae d'être mondialement connue, et c'est déjà pas mal. C'est surtout l'histoire d'un homme envoyé de Dieu, Jah, pour les Rastafari, qui a eu à cœur de délivrer un message d'amour et de paix à travers la planète chaque jour de sa vie. Et pour cela, il a même failli être assassiné. Que se cache-t-il vraiment derrière la légende Bob Marley? Un père qu'il n'a jamais connu? Une vie en tribu? L'amour, les femmes, l'argent, la gloire et la marijuana? Confidentiel lève le voile sur un mythe pas comme les autres. Et juste après, j'aurai l'honneur de recevoir Ziggy Marley, fils de Bob Marley et producteur du biopic qui sort sur la star jamaïcaine dans quelques jours. On est le soir du 3 décembre 1976 à Kingston, en Jamaïque. Dans les hauteurs de la ville, dans l'ancien quartier colonial des Britanniques, à deux pas de la maison du Premier ministre, c'est là que vit Bob Marley. Le chanteur de reggae a 31 ans, c'est une star dans son pays et ailleurs, même si pour les Jamaïcains, il est bien plus que ça. Marley, c'est un véritable prophète, un élu par lequel Jah leur parle. Jah, c'est le dieu des Rastafari. Quand il est sur scène ou en studio avec son groupe, les Wailers, au-delà des chansons, c'est en fait un message qu'il délivre à chaque fois, un message de paix et d'union. En cette année 76, Bob Marley est d'autant plus devenu un symbole que la Jamaïque traverse une crise politique sans précédent. Le pays, qui a obtenu son indépendance de la couronne britannique depuis 14 ans, est alors divisé en deux camps. Celui du parti de gauche, du premier ministre, Michael Manley, et celui de son opposant ultra-conservateur, Edward Sigga. L'affrontement entre leurs partisans respectifs prend des airs de guerre civile. Les violences éclatent un peu partout, et les règlements de compte se jouent maintenant à balles réelles. Le pays, vous l'avez compris, vit sous tension. Pour tenter d'apaiser les esprits et réunir les Jamaïcains, Bob Marley, qui tient à rester neutre, doit organiser un concert baptisé Smile Jamaica, deux jours plus tard, avec la bénédiction du gouvernement. Sauf qu'à la surprise générale, le Premier ministre vient d'annoncer des élections anticipées. Ce qui fait que le concert qui devait réunir les Jamaïcains prend des airs de manifestation politique en soutien au pouvoir en place. Bob Marley est mal à l'aise avec ça, il se sent piégé. De partout, on lui met la pression pour qu'il annule ce show. Mais lui pense avant tout à son peuple, à tous ces gens avec qui il a grandi à la campagne ou dans le bidonville de Trenchtown, et à qui il a promis de jouer gratuitement. C'est envers eux qu'il a un devoir, alors il tient bon. Voilà, ce soir du 3 décembre 76, en vue du concert qui approche et qu'ils ont décidé de maintenir, Bob et les Wailers répètent chez Bob, au 56 Hope Street, dans cette grande maison coloniale où le chanteur vit en communauté, entouré de ses amis, de musiciens et de rasta. Ses compagnes sont dans les parages également, Judy, qui est enceinte de 8 mois, et Cindy, qui vient tout juste d'être élue Miss Monde. Rita Marley, la seule femme que Bob a épousée, est là, elle aussi. Elle vit ailleurs avec ses enfants, mais comme tous les jours, elle est venue pour les répétitions. Elle est l'une des choristes des Wailers. Elle et Bob se connaissent depuis qu'ils sont ados. Avec le temps, Rita est devenue bien plus qu'une épouse. C'est elle qui l'a initiée au rastafarisme, et elle se voit désormais comme la gardienne du temple, la gardienne de son œuvre et de son héritage spirituel. Leur fils, Ziggy, dira plus tard qu'il n'y aurait jamais eu de Bob Marley sans Rita. Et en attendant que le patron vienne répéter, le groupe fait tourner I Shot the Sheriff. Bob est dans la cuisine avec son manager, Dan Taylor. Il parle business. Marley est assis sur le bord de l'évier. Taylor mange un pamplemousse à table. Quand soudain, des détonations se font entendre. Il pense tout de suite que ce sont des pétards lancés par les gamins qui sont dehors. Mais non. En levant la tête, ce sont bien deux revolvers qu'il voit. L'un surgit à travers la porte, l'autre à travers la fenêtre du jardin. Plusieurs coups sont tirés. Dan Taylor prend 5 balles dans l'abdomen et tombe à terre. Bob, lui, est touché à la poitrine et au bras. Oui, on vient de tenter d'assassiner Bob Marley. Les coups de feu ont provoqué la panique dans la salle de répétition. Beaucoup se sont réfugiés dans la salle de bain. Rita, elle, se trouve devant la maison, dans la cour qui donne sur la rue. Elle tombe alors nez à nez avec les tireurs qui prennent la fuite. Un dernier coup de feu retentit. Rita Marley vient de prendre une balle dans la tête. Ce soir du 3 décembre sera celui d'un drame manqué et même d'un miracle. Et oui, en voulant tuer Bob Marley et ses proches, les tireurs auront finalement donné naissance à une légende. Il n'y aura aucun mort. Rita, Dan et Bob, tous s'en tireront sains et saufs. Le chanteur de reggae en sort en quelque sorte ressuscité en Dieu vivant. Jah en a voulu ainsi. Le destin de Bob Marley est trop important pour qu'on le rappelle déjà. Il doit continuer à transmettre son message. Et deux jours plus tard, le 5 décembre, malgré les menaces qui pèsent toujours sur sa vie, Bob Marley et les Wailers sont sur scène. Rita est là, elle aussi. Pour l'histoire, ses dreadlocks lui auront sauvé la vie car elles ont empêché la balle de toucher son cerveau. Marley dévoile au public son corps mutilé. La trace que la balle lui a laissée sur le cœur avant d'aller se loger dans son bras gauche. La foule est en transe le soir de ce concert. 80 000 personnes sont venues acclamer leur messie. La star ne devait jouer qu'un seul titre. Il restera finalement sur scène une heure et demie. Bob Marley est désormais le prophète de la cause Rasta et il est sur le point de diffuser sa bonne parole au monde entier. Vous écoutez Confidentiel sur Bob Marley. Restez avec nous, on revient tout de suite sur RTL.
RTL. Confidentiel, Bob Marley. Bel RTL et RTL TVI vous invitent au Mongolfiads International de Han-sur-Lès du 9 au 12 mai. 4 jours de fêtes et d'animation avec 40 montgolfières. Des baptêmes de l'air, un immense kids village, un grand marché artisanal et un spectacle son et lumière exceptionnel. Toutes les infos et le programme sur Montgolfiadon-sur-Lès.
Allez supporter le Team Belgium à Paris, c'est possible. En mai au loto, il y a 100 tickets pour les Jeux Olympiques à gagner en plus du jackpot. Hey, jouez maintenant. Loto, parce que c'est possible.
Confidentiel, Bob Marley.
Avec Ophélie Meunier.
Le futur prophète de la cause Rasta voit le jour dans un véritable jardin d'Éden. Robert Nesta Marley naît à Sainte-Anne, un petit village perché sur les hauteurs au nord de la Jamaïque, au milieu des collines verdoyantes et de la végétation luxuriante. C'est vers cette terre fertile, propice à la culture de la pomme de terre, de la banane et du cacao, que des anciens esclaves ont trouvé refuge un siècle auparavant. Leurs descendants vivent là, dans des maisons de fortune faites de tôles, au milieu des champs. Pas d'électricité là-haut, les soirées se passent à la simple lumière de la lune, à chanter et à faire de la musique avec ce qu'on a sous la main. C'est justement dans les champs que Cédella, la mère de Bob, a croisé un cavalier britannique avec sa tenue beige et son chapeau colonial. Elle a tout juste 16 ans. Lui, il a la soixantaine. Ici, tout le monde le connaît sous le nom de Captain Marley. La Jamaïque n'est pas encore indépendante et c'est lui qui supervise sur l'île pour l'Angleterre les plantations de cacao et de canne à sucre. Il prendra certes son nom, mais Bob grandira loin de ce père étranger et à la peau blanche. Toute son enfance, Bob, que tout le monde appelle Nesta, vivra avec ce statut peu enviable de métis, rejeté par les Blancs comme par les Noirs. Nesta est méprisé pour ce qu'il représente. Ce métissage sera d'abord une tare. Enfant, on lui confie les travaux des champs les plus ingrats. À l'école, on l'insulte. Mais Bob, le timide, révèle rapidement une force de caractère. Un rebelle qui gagne peu à peu le respect de ses camarades sur les terrains de foot et au détour des rues, là même où l'on reprend la musique venue d'Amérique à travers la radio. Nesta a une dizaine d'années quand sa mère, Cédella, décide de partir vivre à Kingston, dans le quartier pauvre de Trenchtown. C'est ici, au milieu des maisonnettes de tôle et de bois, qu'il va faire ses premières armes de musicien. Et qu'il va apprendre aussi à rendre les coups. Car à l'époque, un gang local fait la loi à Trenchtown. Les Rude Boys. À leur côté, le jeune garçon chétif va gagner un surnom. Taf Gang, ça veut dire le dur à cuire. Ça deviendra d'ailleurs un jour le nom de son label. C'est aussi dans cet environnement à Trenchtown que le futur prophète de la cause Rasta va faire la connaissance de ses disciples. Des musiciens en devenir comme lui, qui pour le moment sont plutôt promis à faire bouillir la marmite. Bob quitte en effet l'école à l'âge de 14 ans pour devenir soudeur. Pendant son apprentissage, il se lie d'amitié avec un collègue, lui aussi musicien à ses heures perdues, un certain Desmond Decker. Avec lui, il partage le goût pour le mento, la musique traditionnelle de la Jamaïque, et sa guitare à contretemps, mais aussi pour le ska qui est en train de naître. Cette rencontre avec Desmond Decker, ce sera déterminant pour Bob. Un soir, il rentre chez sa mère avec un éclat de métal dans l'œil. Il a mal, mais surtout, il en est convaincu, ce métier de soudeur n'est vraiment pas fait pour lui. Il serait bien meilleur à composer des chansons. Les semaines suivantes seront donc dédiées à la musique. On est en 62, la Jamaïque vient tout juste d'obtenir son indépendance, quand l'adolescent réussit, grâce à Desmond Dekker, à sortir un premier single, Judge Not. Et ça connaît son petit succès. Ce n'est pas encore suffisant pour le faire vivre, il ne touchera que 20 dollars pour le titre. Mais c'est assez pour faire connaître son nom hors des murs de Trenchtown. Terminé Nesta, place à Bob. Bob Marley. Il a tout juste 16 ans et la musique, il le sait déjà, c'est son destin. Et ce destin, le jeune Marley ne mesure pas encore l'ampleur qu'il va prendre. On est en février 1964 à Kingston. Fort de son premier enregistrement, Bob Marley et son pote d'enfance, Bunny, se mettent à la recherche d'autres musiciens avec lesquels former un groupe. Un jour, un grand type débarque, il s'appelle Peter, et il se dit guitariste. Guitariste ? Ok, vas-y, joue-nous un truc. On lui passe une guitare, et là... Dès les premières notes, Bob et Bunny sont scotchés. Le dénommé Peter Tosh vient compléter le trio qui deviendra la formation historique des Wailers. Les trois musiciens se placent sous l'aile d'un artiste plus expérimenté, Joe Higgs, avec qui ils vont travailler leur style encore et encore. La nuit, Joe les fait même chanter dans les cimetières pour affronter l'esprit des morts. Car à cette époque, la vie spirituelle de Bob Marley aussi va de l'avant. Il fréquente une communauté rasta fondée pas très loin de Trenchtown et il va bientôt se convertir à leur doctrine. Petit rappel, la religion rastafari est née dans les années 1930 en Jamaïque, au moment même où en Afrique, en Éthiopie précisément, l'empereur Haïlé Sélassié Ier montait sur le trône. Pour les rastas, Sélassié est un élu de Dieu. Ils le considèrent comme leur messie. Et le continent africain étant le berceau du peuple noir, pour tous les rastafaris réduits à l'exode et à l'esclavage, dans leur croyance, retourner en Afrique, c'est retourner vers leur terre promise. Leurs valeurs et leur mode de vie sont inspirés de l'Ancien Testament, plutôt en marge de ce que l'on vit en Occident. Régime alimentaire strict, ni sel, ni alcool. Ils ne doivent pas se couper les cheveux, d'où les fameuses dreadlocks. La consommation de marijuana, la ganja, comme ils l'appellent, est encouragée car elle favorise la méditation. À leurs yeux, toute autorité autre que celle de Jah, leur dieu, est à bannir. Police, gouvernement, église relèvent tous de Babylone, la décadente. Et d'après la lecture de la Bible que font les Rastas, Haïlé Sélassié est donc bien le messie noir qu'ils attendaient. Quand il se rendra en Jamaïque 2 ans plus tard, en 1966, 100 000 personnes l'attendront à l'aéroport. Rita, une jeune femme de Trenchtown, dont Bob est tombé amoureux, lui dira qu'elle a croisé le regard de l'empereur éthiopien dans les rues de Kingston et qu'elle a eu une révélation. Ce petit homme d'1m60 dans son costume militaire était bien l'incarnation de Dieu sur Terre. Tous les ingrédients sont réunis pour nourrir l'esprit et les mots de Bob Marley. Le cœur même de sa musique est d'ailleurs sur le point de battre pour la première fois. Un rythme que les jeunes Wailers trouveront presque par hasard au cours d'une répétition. Une pédale d'effet mal réglée renvoie un jour en écho le riff de la guitare. Une rythmique que Bob et ses acolytes vont s'empresser d'adopter. Le son du reggae est sur le point de voir le jour, même si pour leur premier tube, Simmer Down, qui sort en ce début 64, le futur prophète et ses disciples donnent encore dans le ska pour faire danser les foules. Confidentiel revient dans un instant sur RTL. Écoutez le nouveau titre d'Alain Chamfort, La Grâce, sur Bel RTL.
Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part du mal qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su toucher la grâce?
Confidentiel, Bob Marley.
Avec Ophélie Meunier.
Direction Londres. On est en 1972. Depuis la fin des années 60, Bob Marley et les Wailers ont encore affiné leur son en travaillant notamment avec l'extravagant et génial Lee Scratch Perry. Mais leur renommée est encore confinée à la Jamaïque et aux Caraïbes. Bob Marley, qui a lui aussi fini par se laisser pousser ses dreadlocks, a épousé Rita. Ils ont trois enfants, Cédella, née en 67, Ziggy, qui arrive en 68, et Stephen, en cette année 72. Les Wailers sont en train de terminer une tournée en Angleterre. Mais voilà, ça se passe mal avec les organisateurs qui les ont plantés là, sans un sou en poche. Bob, Benny, Peter et les autres se retrouvent bloqués dans l'hiver londonien, sur la paille et sans personne vers qui se tourner. Le moral est au plus bas, c'est clair. C'est alors qu'un nom arrive aux oreilles de Bob, un certain Chris Blackwell. Ce nom, il le connaît, car 10 ans plus tôt, c'est lui qui avait distribué son premier single, souvenez-vous, Judge Not, en Angleterre. Contact est pris avec ce Chris et un rendez-vous est organisé. Les deux hommes ne se connaissent pas, mais il fallait qu'ils se rencontrent. Depuis 1959, Chris Blackwell est à la tête d'un label, Island Records, qui a été le premier à diffuser du ska en Europe. Entre-temps, sa renommée s'est plutôt faite grâce au rock.
My lady Dapandi.
Mais la Jamaïque, le trentenaire la connaît bien. C'est même là qu'il a grandi, au 56 Hope Street, une adresse qu'on a déjà évoquée dans les beaux quartiers de Kingston. Vous me voyez venir ? C'est donc un fin connaisseur de la musique de l'île et il veut contribuer à la faire découvrir à l'étranger. Mais Chris Blackwell est avant tout un businessman. Et il est à la recherche d'une nouvelle figure, d'un nouveau style, pour combler le vide laissé par la mort de Jimi Hendrix et de Jim Morrison. Alors quand le fauché, l'affamé Bob Marley apparaît en face de lui en ce jour de l'hiver 72, il est comme frappé par la foudre. Le jour où Bob Marley est entré dans mon bureau, dira Blackwell, j'ai eu comme une vision. Il connaît déjà sa musique, mais ce qui le sidère, maintenant que le jeune musicien se trouve là devant lui, c'est son charisme, son sourire, son état d'esprit rebelle et à la fois peace and love. Il correspond exactement à ce que la jeunesse occidentale recherche. Un troupeau laissé là sans berger, sans guide spirituel. Chris Blackwell voit tout de suite le potentiel énorme de Bob et de sa musique. Il est le premier à pressentir ce que ce jeune garçon métis, aux dreadlocks et au charme fou, peut devenir. L'un des artistes les plus importants du XXe siècle, peut-être même plus. Alors le producteur suit son instinct. Il prend un risque et donne tout de suite à Marley et ses amis, sans même signer le moindre contrat, une avance de 8000 livres sterling. Ça fait à peu près 10 000 euros. Une somme très importante à l'époque. Les Wailers peuvent enfin rentrer chez eux. Bob Marley, lui, se remet au travail. Car oui, le prophète du reggae, a rendez-vous avec son destin. L'arrivée de Chris Blackwell va avoir plusieurs conséquences pour les Wailers de Bob Marley. Musical déjà, les Jamaïcains assument enfin à plein leur son reggae avec les albums Catch a Fire et Burn In, sorti en 73, puis avec Natty Dread. En 1974, un certain Eric Clapton va même reprendre l'un des titres du groupe et contribuer à faire connaître la musique de Marley à un public bien plus large. Chris Blackwell veut surfer sur cette vague de reconnaissance. Il organise une tournée de promotion aux États-Unis, une tournée qui fait grincer des dents chez les Wailers. Car qui dit promotion, dit peu, voire pas de cachet. C'est à ce moment-là que Benny, l'ami d'enfance de Marley et le cofondateur des Wailers, claque la porte. Suivi peu de temps après par Peter Tosh. Ces deux figures historiques ont une dent contre Blackwell, qui n'a Dieu que pour Marley. Il lui reproche de créer des tensions au sein du groupe. Alors après ce divorce, les Wailers font entrer des petits nouveaux dans leur formation. Joe Higgs, le mentor des débuts, souvenez-vous, les rejoint. Ainsi que Rita, en tant que choriste, elle ne faisait pour l'instant pas partie de l'aventure. La révolution reggae est en marche. Et des millions de jeunes occidentaux vont bientôt se convertir à la musique jamaïcaine. En 1975, les Wailers sont de retour à Londres, en été cette fois, pour un concert qui va devenir légendaire. Ce soir de juillet, au Lyceum Theatre, la jeunesse anglaise est aussi nombreuse dans la salle que sur le trottoir. Tout le monde est venu dans l'espoir de pouvoir rentrer, tant les fans de rock que la communauté noire de la banlieue londonienne. C'est l'heure de la transfiguration pour Bob Marley. Devant cette foule en délire, qui connaît ses chansons par cœur et qui danse sur ses rythmes lancinants, quelque chose se passe. Le simple chanteur de reggae est en train d'entrer dans une nouvelle dimension, celle de la star planétaire, de l'icône vivante. Bob Marley a du succès, de l'argent, et fait ce qu'il sait faire le mieux, rassembler les Noirs comme les Blancs. Lui qui a à la fois du sang anglais et jamaïcain qui coule dans ses veines, mais surtout, le chanteur des Wailers est devenu un véritable prophète en son pays. Il a même racheté à Chris Blackwell la maison familiale qu'il lui avait prêtée. Les riverains de ce quartier très chic, longtemps interdit aux Rasta et réservé aux élites, voient ainsi débarquer une ribambelle de gamins et toute une communauté de dreadlocks. Et le soir, la musique et les volutes de ganja viennent enivrer ce quartier longtemps resté trop sage. C'est le ghetto qui débarque chez les riches, plaisante Bob Marley, qui abolit à lui tout seul les différences sociales et raciales de son pays. D'un côté, il côtoie le Premier ministre, roule dans une BMW flambant neuve. D'un autre, il distribue son argent aux plus démunis et à tous ceux qui lui en demandent. Bob Marley est devenu incontournable en Jamaïque. Un symbole si fort que les politiques se battent pour obtenir son soutien, évidemment. Jusqu'à ce jour de décembre 76, où on va lui tirer dessus, on le racontait au début de ce confidentiel. Le jour de cette tentative d'assassinat, quelque chose se brise définitivement. Bob ne comprendra jamais pourquoi on a cherché à le tuer. Rita écrira dans son autobiographie « Cette attaque m'a changé, comme elle a changé Bob ». Même si pendant le concert Smile Jamaica, il a relevé sa manche et montré ses blessures au public comme par défi, après ça, il s'est installé dans la peur. Même son de cloche de la part de Cindy Breakspear, Miss Monde 1976 et compagne de Bob à l'époque. Il était profondément blessé qu'on ait pu lui vouloir du mal. Lui qui avait toujours souhaité le meilleur pour le peuple jamaïcain. Quelques semaines après cette tentative d'assassinat, Bob Marley décide donc de partir, et loin. Le prophète vient de choisir l'exil. Un exil personnel qui va bientôt lui-même faire écho à l'un des mythes fondateurs des Rasta, celui de l'Exode. Écoutez cette chanson, on en parle tout de suite. Exodus.
you this. Men and people will fight you down. Tell me why.
Dans un instant sur RTL, la suite de Confidentiel Bob Marley. Et puis je recevrai mon invité, Ziggy Marley, fils de la légende et producteur du biopic sur le chanteur de reggae le plus connu au monde.
Confidentiel.
RTL.
Ophélie Meunier.
Besoin de nouvelles lunettes ? Votre opticien Pearl vous aide à choisir une monture de marque et des verres de qualité adaptés, assortis d'une réduction de 40%.
Salut, c'est David et je suis boucher chez Colruyt. Il y a de délicieuses promos barbecue en ce moment. Des chipolatas à seulement 7,98€ le kilo.
Faisons la différence. Découvrez toutes les actions jusqu'au 7 mai dans nos magasins. Conditions sur colruyt.be. Colruyt, meilleur prix.
Globsaland de Pannes, de l'amusement pour toute la famille sur plus de 50 attractions. Les meilleurs événements, plein d'animations et de spectacles. Et des rencontres magiques avec vos héros préférés. Combinez votre visite avec un séjour à l'hôtel Plopsa. Toutes les infos via plopsa.be.
Chez Lunch Garden, les enfants mangent gratos pendant les vacances de printemps. Parce que les prix des menus enfants sont en vacances. Infos et conditions sur lunchgarden.be.
Confidentiel, Bob Marley.
Avec Ophélie Meunier.
On est en 1977, dans le quartier de Chelsea, à Londres. C'est ici que Bob Marley, quelques membres des Wailers et Cindy, sa petite amie, ont posé leurs valises. Dans cette grande demeure du 42 Oakley Street, la vie de la petite communauté jamaïcaine ressemblerait presque à celle de Kingston. Chaque matin, c'est footing et partie de foot de l'autre côté de la Tamise, au Battersea Park. Répétition l'après-midi, le soir, on lit la Bible avec les copains Rasta du coin, le tout évidemment dans une ambiance un peu enfumée. Et au petit matin, Bob Marley, qui dort peu, se plonge corps et âme dans sa musique. La routine s'installe rapidement chez les Wailers. Le chanteur est un peu nostalgique de son île, mais il reste traumatisé par les événements de Kingston. Pourquoi a-t-on voulu le tuer ? Même ici à Londres, il a peur pour sa vie et il se fait le plus discret possible quand il sort. Au point qu'un soir, il est arrêté lors d'un simple contrôle routier pour un joint découvert dans sa poche. Sa condamnation pour détention de marijuana fait la une des tabloïdes et révèle surtout au grand jour sa présence dans la capitale britannique. La presse s'intéresse alors à cet étrange prophète jamaïcain qui vit le grand amour avec la plus belle femme du monde. Je rappelle que Cindy Breakspear vient de remporter le titre de Miss Monde. Bob déroge de temps à autre au code de conduite Rasta en tombant dans des mondanités toutes babyloniennes. Restaurant chic, smoking et champagne. Et quand Cindy est en voyage, Bob continue de multiplier les conquêtes féminines. Il dira « Les femmes, ce sont les mères de la création. Je me sens le droit de les avoir toutes de temps en temps. » Des mères de la création, comme il dit, que Bob aura largement mis à profit. Je précise, en plus des 3 enfants conçus avec Rita, il aura Damian avec Cindy, Robert et Rohan avec des filles de Trenchtown, mais aussi Julian avec une groupie, ou encore Makeda avec une secrétaire de son studio de Kingston. Donc au total, pas moins de 11 enfants porteront officiellement le nom de Marley, même si une quinzaine revendiqueront sa paternité. Rita, elle aussi, aura des enfants de son côté. Bob se montrera en revanche très jaloux et parfois même violent quand Madame Marley, qui est toujours sa femme sur le papier, aura d'autres aventures. Mais cet exil londonien et toutes ses rencontres ne le détournent pas pour autant de sa mission première, sa grande mission qui reste artistique et spirituelle. Car c'est à Londres que se construira l'un de ses chefs-d'œuvre et son plus grand succès jusque-là, l'album Exodus. Le nom s'est imposé de lui-même. Un jour, Family Man, le bassiste des Wailers, revient à Oakley Street avec un film sous le bras, Exodus, d'Otto Preminger. Le long métrage raconte un épisode de la naissance d'Israël, celle d'un navire, l'Exodus, qui conduit des rescapés de la Shoah vers la terre promise des Juifs. Le film et sa musique épique prennent Bob Marley et ses camarades aux tripes. Le rastafarisme promet lui aussi le retour en terre promise des descendants d'esclaves. Les Wailers se reconnaissent dans cette histoire d'exode. Eux qui se sentent perdus, quelque part entre leur Jamaïque natale et l'Afrique des origines, y voient la matière à un grand disque, à la fois mystique et spirituel. À sa sortie, en juin 1977, Exodus est un carton en Europe. Chris Blackwell organise une grande tournée américaine. Les États-Unis, le Graal du marché de la musique, n'attendent plus que lui et les Wailers. Sauf qu'un pépin de santé de Bob Marley, de prime abord complètement insignifiant, contraint finalement les Wailers à annuler leur départ pour l'Amérique. Au cours d'une de ses traditionnelles parties de foot, Bob adorait ça, le chanteur de 32 ans a pris un coup de crampon au gros orteil. Bob Marley a laissé traîner, il a continué à jouer, la plaie s'est infectée et elle n'a pas l'air de guérir. Après plusieurs semaines, le diagnostic tombe. Marley a un mélanome, un cancer de la peau. Bob est stupéfait et sous le choc. Il se souvient alors de ce père blanc, quasi étranger. Cette maladie, elle n'existe pas au sein de la communauté noire. Alors elle lui vient forcément de cette moitié blanche qu'il a à l'intérieur de lui. Le seul héritage que son géniteur lui aura jamais laissé, un combat avec la mort. Car le prophète jamaïcain est déjà en train de vivre ses dernières années. On est fin 78, le temps presse pour le prophète du reggae et ses disciples. Après l'annonce de la maladie, Bob Marley ne se ménage pas. Il décide de repartir en tournée avec les Wailers. Il a encore un message à faire passer. Ja veille sur lui de toute façon. Après l'Europe, il veut désormais évangéliser l'Afrique, l'Éden des Rastas. Et évidemment l'Éthiopie, l'Éthiopie de Selassie, souvenez-vous. Car Bob Marley, le prophète du reggae, a beau remplir les stades européens, il a l'impression de ne pas atteindre ses frères noirs suffisamment. En novembre 78, il se rend donc à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, avant d'entreprendre le pèlerinage de Sachamein, la Mecque des Rastafari. C'est ici qu'en 1941, l'empereur Haïlé Selassie avait offert 200 hectares de terre aux réfugiés noirs. Une terre promise pour ceux qui fuyaient la ségrégation raciale aux États-Unis ou pour les Rastafari venus accomplir leur rapatriement, leur retour de Jamaïque. Bob Marley passera plusieurs jours seul, ici, avec les colons. Avec eux, il s'intéresse à la situation d'un autre pays d'Afrique, la Rhodésie, où une violente guerre d'indépendance fait rage. C'est là qu'il composera un morceau qui fera date dans l'histoire du continent africain, en devenant 2 ans plus tard l'hymne même de ce nouveau pays, le Zimbabwe. Le 17 avril 1980, Bob Marley et les Wailers font le voyage vers le Zimbabwe. Le prophète Rasta a 35 ans, mais il en fait facilement 10 de plus. Il est rongé par la maladie. Son cancer s'est propagé partout, cerveau, poumons, colonne vertébrale, tout est touché. Peu de temps avant, à New York, il a fait un malaise à Central Park pendant un footing avec les Wailers, à qui d'ailleurs, on ne peut plus vraiment cacher la situation. Les médecins n'ont plus d'espoir. Mais Bob, qui se fie plus à Jah qu'à la science, veut continuer d'y croire. Et continuer de se produire sur scène. Maintenant qu'il est devenu cette icône mondiale, Bob Marley entend consacrer le peu de temps qu'il lui reste à chanter. C'est ce que Jah a choisi pour lui. Alors il veut accomplir sa mission.
Rastaman vibration, yeah, I'm positive. Live if you wanna live, I and I vibration, yeah, I'm positive.
Le 17 avril, jour de l'indépendance du Zimbabwe, il est donc là, devant une foule en délire venue acclamer cette star du reggae qui leur a donné la force de se libérer de l'emprise britannique. Mais rapidement, des incidents éclatent à l'extérieur du stade où se tient le concert. On tente de forcer la sécurité, la clameur gronde. Les gens viennent de tout le pays, mais aussi d'Afrique du Sud, de Zambie, du Congo, pour apercevoir le prophète Rasta le souvenir d'une vie. Et bientôt, les policiers sont débordés. Des centaines de personnes investissent l'enceinte et voilà qu'on lance des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. C'est le chaos le plus complet. Des femmes et des enfants sont piétinés. Rita et les choristes quittent la scène, suivis peu à peu par des musiciens suffocants et en larmes. Bob Marley, lui, n'a pas bougé. Malgré la cohue, il se tient là, sur scène, seul, en transe. Il ne veut pas abandonner son public. Les Wailers reviendront finalement sur scène pour reprendre le concert et chanter le très attendu morceau Zimbabwe. Le prophète jamaïcain ne vient pas seulement de rentrer dans la légende de la musique. Il vient de faire une entrée fracassante au panthéon de l'Afrique. Bob Marley est enfin rentré chez lui. On est au printemps 1980. On n'est plus au Zimbabwe, ni au 56 Hope Street de Kingston, ni au 42 Oakley Street de Londres. Non, on est en Allemagne, dans un petit village de Bavière, près d'un lac, au milieu des montagnes enneigées. C'est là que vit Bob Marley depuis 8 mois. Un soigneur controversé y a ouvert une clinique, celle de la dernière chance pour Bob. Il va tout de même réussir à déjouer les pronostics des médecins qui ne donnaient plus que quelques semaines à vivre au prophète Rasta. À Rotterdam, en Allemagne, la star du reggae s'est certes acheté quelques mois de sursis, mais Marley n'a pas pu déjouer son destin de prophète rappelé auprès de lui par Jah, après avoir si longtemps prêché la bonne parole. Avec le traitement, Bob a perdu du poids et ses dreadlocks. Ses fidèles sont là autour de lui pour l'accompagner dans ce dernier combat. Un dernier combat qui atteint son ultime round le 8 mai. C'est à ce moment que Bob Marley s'envole pour Miami, où vit sa mère. Ce sera son dernier voyage. Le grand prophète jamaïcain, le chantre du reggae, l'icône Rasta, le libérateur de ses frères africains, s'éteint le 11 mai 1981 auprès des siens. Rita est là. Elle a emmené avec elle tous les enfants de Bob, les siens, mais aussi ceux des autres. En Jamaïque, la nouvelle fait l'effet d'un tremblement de terre. La mort de Bob Marley est pleurée dans tout le pays et dans une grande ferveur religieuse. Sur la route qui ramène sa dépouille à Sainte-Anne, cet Éden qu'il aura vu naître au milieu des collines 36 ans plus tôt, les hommes s'écroulent, les femmes crient leur douleur. Un mausolée a été construit à la va-vite au milieu du petit village de Tôle. Plus de 100 000 personnes l'entourent, en espérant toucher son cercueil une dernière fois. L'hommage d'un pays à son roi prophète, à un messie qui aura porté dans le monde entier le message des Rasta, celui de la liberté retrouvée d'un peuple et de sa rédemption.
All pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly.
Restez avec nous sur RTL dans un instant dans Confidentiel, la suite des dessous du mythe Bob Marley.
Confidentiel
RTL.
Ophélie Meunier. Vous êtes sur Bel RTL.
Upside down, boy, you turn me inside out and round, round, upside down. Boy, you turn me inside out.
Bel RTL, tous vos titres préférés.
La nuit porte conseil et je sais. Down.
have Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford.
Vous écoutez Bel RTL. Plus de plaisir, plus de musique.
Confidentiel
sur RTL. Comment cette aventure a commencé?
Il y a 5 ans.
Something.
Je pense qu'il y a quelque chose m'a fait penser à contacter en fait un studio, explorer, étudier l'idée de faire un film sur la vie de mon père et du message de sa vie. Et je me disais qu'il y avait quelque chose, on peut pas expliquer vraiment ce qui portait cet élan, mais voilà.
Alors dans le film, il y a ces parties de foot incroyables qu'on voit que vous jouez avec votre père quand vous étiez enfant. J'aimerais savoir le souvenir que vous en gardez, gamin, de ces moments-là très 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 joyeux et très familiaux et de partage.
Alors, les souvenirs que j'en ai, bien, sont marqués par beaucoup de joie, une grande joie. Mais également, ce souvenir de, eh bien, d'être là et de voir des discussions avec, marquées par une gravité sur la révolution. On est allé aussi, eh bien, en Afrique, au Zimbabwe. Et effectivement, on était là au milieu de ces militants politiques. Et puis, des personnages assez dangereux quand même, et effectivement ce sont, on dirait pas que ce sont là des personnes dangereuses, mais quand même en tant qu'enfant, eh bien on perçoit cet angle aussi, on le sent. Alors beaucoup de moments chéris, mais beaucoup de football, beaucoup de sujets graves également.
Le film résonne beaucoup avec l'actualité. Est-ce que vous espérez que le message envoyé par le film fasse du bien aussi aux gens, particulièrement en ce moment?
Oui, alors effectivement, je pense que dans sa vie, Bob travaillait à l'unification des êtres humains. Et on a d'ailleurs essayé de l'assassiner pour ça. Et donc, il a dû prendre une décision pour de revenir, de retourner. Et je dirais que après son retour, il était entendu. Il y avait, je dirais, une plus grande paix au sein de la communauté. Les influences politiques et au sein de la communauté étaient beaucoup plus apaisées que par le passé. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un concert, et un concert non seulement pour la Jamaïque, mais pour l'Afrique et le monde.
On peut s'en servir encore aujourd'hui, alors. C'est ça qui est bien. Et ça servira probablement toujours. Je voudrais vous entendre sur Rita. Rita est incroyablement bien jouée par Lashana. Est-ce que vous pouvez me dire quel exemple Rita a été pour vous en tant qu'enfant, Ziggy?
Ma maman, alors...
Listen, she's a very strong woman.
Écoutez, c'est une femme très forte. Elle est engagée à la cause. Elle est engagée à l'amour qu'elle portait pour Bob et que Bob lui portait. Et donc, quand je pense à ma maman, eh bien, je pense, eh bien, à la balle qu'elle a reçue dans la tête, et qu'elle a continué à soutenir Bob à l'occasion du concert Once a Smile. Donc, et je dirais que c'est sans elle, il n'y aurait pas eu de Bob Marley. Et ça, c'est impossible, tout simplement.
J'adore entendre ça.
It's true.
C'est vrai.
Comment vous définiriez justement cette relation aussi puissante entre Rita et Bob?
Les relations comme celle-ci sont façonnées, forgées pendant les périodes difficiles. Parce qu'ils se sont connus alors qu'ils n'avaient rien, l'un et l'autre. Et le lien s'est construit là. Il y a un lien spirituel également entre ces deux êtres. Ils partageaient la même conscience, tous les deux. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas de différence. Leur conscience était unie, si vous voulez, et dans le Rastafari, dans le... la dimension spirituelle. Et là, il y a vraiment un lien très très fort à ce niveau-là entre ces deux êtres. Et vraiment, c'était un lien unique, multidimensionnel, de la politique, de la philosophie Rastafari, dans l'unité et de ce qu'il, de ce que ces deux êtres faisaient. C'est un lien qu'on ne peut rompre, jamais.
Votre père est parti si jeune, 36 ans. C'est mon âge aujourd'hui, donc je sais de quoi je parle. Vous avez un regret, Ziggy, par rapport à ça? Est-ce qu'il est parti trop tôt?
Oh yeah, too early for me. Yeah, sure.
Bien sûr, trop tôt pour moi, absolument.
No doubt for us.
Il va sans dire, sans aucun doute. Il nous manque. Et puis, effectivement, au fur et à mesure qu'on grandit nous-mêmes et qu'on prend de l'âge, on réalise que il est mort très jeune. Mais on vit dans différents espaces. On vit dans le monde physique et on vit dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Et effectivement, se réduire dans ce monde physique, mais on est très lié à au spirituel, à cette dimension, c'est très important. Et on sent que cette relation existe toujours et elle perdure dans cet espace spirituel, non pas dans l'espace physique, mais dans l'autre espace, l'espace spirituel. Et c'est un bon équilibre. Il faut vivre un petit peu dans ces deux dimensions.
Ma question est peut-être un peu trop personnelle et si vous voulez pas y répondre, il n'y a pas de souci, et c'est peut-être un peu intime, mais dans ce monde spirituel, vous vous parlez tous les jours avec votre père?
Pas au quotidien, mais de temps à autre, effectivement, oui.
Les chansons de Bob et son culte, on le voit avec ce film. De nombreuses phrases aussi de Bob. Juste deux exemples, la musique peut rendre les gens meilleurs. Il suffit de leur injecter constamment. Ou encore, quand on est frappé par la musique, ce qui est bien, c'est que ça fait pas mal. Est-ce qu'il y a une citation, une phrase de Bob que vous aimez particulièrement et qui vous accompagne?
Well, yeah, I mean, listen, I'm telling this now.
Bon, écoutez, je dirais que la dernière chose que mon père m'a dit était que, en montant, prends-moi en haut, sur ton chemin vers le bas, ne me laisse pas tomber. Et ça veut dire que moi, j'ai une chanson pour toi. Et cette chanson disait ces mots-là. En montant, prends-moi en haut, sur ton chemin vers le bas, ne me laisse pas tomber. Pour moi, ça résonne toujours, aujourd'hui. Et regardez, on est là aujourd'hui. Et on aide à porter son message. Son message d'amour de manière à ce que le monde puisse justement être exposé à ce message et le comprenne, le découvre en tant qu'être humain, en tant que personne et non pas en tant qu'icône, mais vraiment en tant que personne, qu'en tant qu'être humain. Et c'est là où on peut établir ce lien et ces mots résonnent vraiment avec moi.
Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous espérez pour ce film, vous, personnellement? Qu'est-ce que vous espérez le plus pour ce film?
Mon espoir est que le monde puisse s'unir, qu'on arrête d'être divisé dans le monde. Ce n'est pas nécessaire. Et on peut faire, les êtres humains peuvent faire bien mieux que ce qu'ils font en ce moment. Et j'espère que ce film sera une voix qui portera ce message. Il n'y a pas tant de films que ça. Et finalement, aucun film ne porte ce genre de philosophie, de ce message, cet esprit. Et parce que lorsque l'on voit, regardera One Love, eh bien, c'est un petit peu une stratégie pour insuffler une pensée dans les esprits de ceux qui regarderont ce film. Voilà, One Love. Eh bien, c'est une stratégie subliminale pour faire ancrer cette idée dans l'esprit des êtres humains. Parce qu'aucun leader ne parle de s'aimer les uns les autres. Aucune religion ne parle de s'aimer les uns les autres. Non. Et voilà, Bob, c'est le seul qui a justement porté ce message d'amour. Qui a vraiment porté ce message. Et personne d'autre n'a porté ce message-là. Non. C'est pas quelque chose qu'on entend, c'est pas quelque chose que l'on voit. Et là, c'est le seul espoir que l'on a pour véritablement influencer l'humanité tout entière. Il faut porter ce message.
Thank you, Ziggy.
Yeah, man. Thank you.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Bob Marley, un épisode réalisé par Dany Matouk, écrit par Thomas Pierre et programmé et produit par Marie-Caroline Mandon. Une version intégrale de mon entretien avec Ziggy, avec encore plus de détails, est disponible sur RTL.fr, tout comme tous les autres épisodes de Confidentiel.
RTL Confidentiel. Ophélie Meunier.
Together and feel all right.
Hear the children crying.
One love.
Hear the children.
and I will feel alright. Saying, let's get together.